BFM Business et Tech&Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue dans De quoi je me mêle. Vous le savez, on se retrouve tous les week-ends pour faire un point complet sur toute l'actualité tech en audio, en vidéo, à la fois sur BFM Business, Radio Télé, mais aussi sur YouTube dès le vendredi midi et en podcast audio avec quelques minutes supplémentaires. Vous l'avez remarqué, il y a un peu plus de bruit que d'habitude dans De quoi je me mêle cette année, puisque nous sommes à VivaTech. Et oui, vous savez, ce grand salon dédié à la tech qui est au cœur de Paris, porte de Versailles. Et pendant ces 52 minutes, on va évidemment revenir sur les coups de cœur de tous ceux qui sont avec moi sur le plateau de quoi je me mêle pour cette semaine. Et puis, on parlera aussi d'Apple tout à l'heure. Apple qui a une très mauvaise nouvelle à nous annoncer concernant le prix de leurs produits. On s'en doutait, mais ça a été confirmé par Tim Cook, ça sera dans la deuxième partie. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Un grand merci d'être là. Et c'est parti pour De quoi je me mêle depuis VivaTech.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
VivaTech, donc c'est le 10e anniversaire cette année. Voilà, alors happy birthday à toute l'équipe de VivaTech. Et pour, on va dire, commenter l'actualité en ce vendredi, nous avons sur le plateau de quoi je me mêle ici, à Porte de Versailles, Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Salut François, bonjour messieurs.
Voilà, qui est journaliste à BFM Tech, que vous connaissez bien évidemment. Pierre Fontaine est là aussi, salut Pierre.
Bonjour tout le monde.
Rédacteur en chef adjoint de BFM Tech, la team BFM Tech est à ma gauche. Et à ma droite, c'est BFM Business avec Anthony Morel. Salut Anthony.
Salut François, salut les amis.
Que vous retrouvez le matin dans Good Morning Business, mais aussi à la mi-journée sur RMC. Alors bon, vous avez pu parcourir un peu les allées de ce VivaTech. Déjà, c'est immense. Ouais. Cette année, franchement, c'est incroyable. Il y a, je crois, 3 étages ouais. de stands, ouais. divers et variés.
C'est très riche.
C'est très riche.
Moi, j'ai mis mes baskets de running.
je vous le dis. Pareil.
Comme à chaque fois sur ces salons.
Anthony fait son marathon.
Bah, je fais l'entraînement en même temps.
De VivaTech. Attends,
d'une pierre deux coups.
C'est ça qui est cool. Cela dit, c'est pas facile de courir parce qu'il y a tellement de monde.
Ouais, c'est compliqué.
T'es un peu gêné quand même.
Faut slalomer.
Ça travaille. En tout cas, c'est un vrai succès. Populaire en tous les cas, VivaTech. Et je vous rappelle que pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce vendredi, si vous êtes dans la région parisienne, rappelons que le samedi, c'est ouvert au grand public. Et ça peut être sympa de voir un peu les dernières innovations en matière de robots, d'IA, voilà, de tous ces sujets qu'on évoque, évidemment, toutes les semaines dans De quoi je me mêle.
Ouais, c'est une façon de les voir de manière concrète, parce que pour le coup, il y a pas mal de démonstrations quand même, hein, mine de rien. Les robots, typiquement, c'est peut-être le truc le plus spectaculaire, on va en reparler, mais si vous voulez voir ces robots humanoïdes dont on parle avec un niveau de dextérité incroyable, ici, il y en a plein. Donc c'est vraiment le. Il y a des voitures absolument dingues, il y a des drones, il y a des trucs complètement fous dont on va parler dans l'émission aussi, complètement WTF, pour ne pas dire le mot. mais bon, mais si vous venez, prenez-y vous un petit peu tôt, parce que c'est pas
ouais.
évident.
Il faut pouvoir rentrer.
Ne venez pas trop tôt pour pouvoir rentrer voilà. facilement. Enfin, c'est aussi l'autre voilà. solution.
Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est climatisé. Et
ah oui.
on annonce des températures incroyables.
Venez là, au frais à VivaTech.
Ce week-end, ce samedi, vous serez quand même au frais pour découvrir toutes ces innovations. Alors bon, vous avez chacun vos petits coups de cœur. Mélinda, on va commencer avec toi. Alors ça fait un peu cliché quand même. Mélinda
ouais,
qui a fait son propre parfum. Mais malgré tout, j'imagine qu'on peut faire des. Enfin, les hommes peuvent faire des parfums aussi avec,
mais messieurs,
avec ce que tu as vu.
Vous êtes les bienvenus aussi pour faire votre parfum. Alors, on rigole, mais il y a une grosse tendance sur ce salon de start-up en tout genre qui vous propose de faire votre parfum à l'IA. Évidemment, c'est l'intelligence artificielle.
Ça sent quoi, l'IA?
L'IA a une odeur? Oui, ça, je ne savais pas. Ça sent l'IA.
Tu sens l'IA.
Tu sens l'IA.
Ça sent l'IA.
Alors, tu encore traîné dans un
sens. Tu sens le data center poussiéreux.
Sachant que l'IA n'a pas d'odeur, normalement, ça ne va pas sentir grand-chose.
Est-ce que c'est plus rassurant? C'est ça la réalité. Non, blague à part, il y a énormément de startups sur le salon qui proposent des startups françaises, des startups étrangères. Là, moi, je l'ai fait chez AWS. Vous savez, c'est le côté Amazon, serveur et tout. Eux, ils ont Bedrock, qui est leur. Comment je peux dire, agrégation de modèles IA, de langages qui peuvent adapter un peu à tout. Donc on l'a vu en France, nous, avec l'arrivée d'Alexa Plus, par exemple, ils ont Mistral dans l'eau, hop, c'est Mistral qui fait ça. Et donc là, ils sont associés à un parfumeur dont ils ne veulent pas donner le nom, parce que je pense que c'est un peu pour la démo ici et un peu à terme un vrai partenaire. Et grâce à l'IA générative, en fait, vous allez remplir un questionnaire qui va vous demander votre état d'humeur. Alors, c'est à l'oral, vous pouvez le faire à l'oral ou à l'écrit. Ici, je vous conseille l'écrit parce que moi, je l'ai fait à l'oral et parfois, c'était tellement bruyant qu'elle n'entendait pas tout. En gros, ça va donner, vous allez donner votre humeur, ce que vous aimez, si vous êtes fan de peinture ou de cinéma ou je ne sais quoi, enfin, tout ce qui peut vous caractériser. Et de, entre votre voix, les éléments que vous rentrez, alors vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ça va définir des senteurs. On vous affiche les senteurs, vous les gardez pas, s'il y a des choses que vous aimez pas, s'il y a des choses auxquelles vous êtes allergique, vous l'indiquez aussi. Et au final, elle prend un peu votre température et elle mixe tout.
Wow.
Et elle est capable de vous sortir un parfum. Mais alors, le plus drôle, c'est que non seulement, bon, évidemment, il y aura tout ce qui est arôme et tout.
Tu peux le prendre ou pas ?
N'y va pas, François, n'y va pas.
Tu vas pas être déçu parce qu'il est très fort et j'ai fait un peu n'importe quoi.
Elle a dit qu'elle aimait beaucoup les westerns et les chevaux.
Je m'excuse parce que j'en ai fait d'autres qui étaient mieux.
Alors, je crois que Pierre Fontaine veut faire métro tramway canicule comme senteur.
C'est ça, oui.
C'est une très bonne idée.
Alors, vraiment. Tu rigoles, mais il y a ici un stand où tu promptes ton parfum vraiment de manière un peu plus. Tu te demandes ce que c'est ça.
Tu nous as pas dit comment il s'appelait ton parfum, parce que j'ai vu le titre moi.
Parce qu'évidemment, j'ai un parfum avec un nom.
Ouais. Alors vas-y.
Et donc mon parfum s'appelle Fleur Ardente.
Oh là là.
Lâchez-le parce que
c'est tellement toi ça. Vraiment.
Le côté fleur et le côté ardent.
Je n'ai pas personnalisé, mais on peut personnaliser aussi sa petite affichette publicitaire.
Et tu vas le sentir.
Ça sent quoi, ça sent hyper fort, je te préviens.
Oh.
Voilà.
Ça sent le GPU ou pas ?
Comment dire ?
Non, ça sent. Alors, il y a trop de rose dedans pour moi.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Non, mais alors après, fleurs, hein. Moi j'ai des gouttes d'eau.
Où sont les toilettes publiques ici ? Non, j'exagère.
Non, j'en ai senti d'autres. Là, c'est parce qu'on a fait un mélange qui était un peu. Oui, un mais peu c'est ardent, on va dire.
Le parfum est un peu
Mélinda,
entêtant, mais ça va.
Tu as plein de talent, mais tu n'es pas un nez.
Non, mais il y avait des nez vraiment, mais là c'est moi qui ai fait mon truc aussi un peu pour tester
oui,
la machine.
Bien sûr.
J'ai testé celui de ma comparse qui était avec moi, c'était plus équilibré, il faut l'avouer.
D'accord.
Mais je trouve que l'idée est intéressante, blague à part, et surtout ça fait quelque chose de personnalisé. Je regardais sur les ordinateurs des autres personnes qui étaient à côté de moi en train de le faire, on n'avait pas un modèle identique, genre on vous met les 5 mêmes senteurs et ça fait votre parfum. C'était vraiment quelque chose de très très différent, vous pouvez changer. Tout ça pour vous dire que l'IA générative sert aussi à ça. Pas qu'à demander des choses à ChatGPT, il est capable de vous connaître et de personnaliser ça. Dans un environnement plus calme, ce sera mieux aussi. Mais à terme, c'est un peu ça aussi l'idée. Je discutais avec un des parfumeurs qui était là et qui travaille sur ces projets. Eux, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur des algorithmes et des choses comme ça pour mettre tout leur catalogue de création de parfums en fait, dans une base. Aujourd'hui, avec l'IA générative, forcément, ça accélère les choses et ça permet d'avoir un parfum encore plus personnalisé. On sait qu'il y a plein de marques qui essayent souvent de faire des parfums personnalisés. Voilà, vous êtes au niveau au-dessus. Et oui, promis, je m'appliquerai mieux la prochaine fois.
Mais on a un prix ou pas ?
Alors non, parce que là, c'est
là, pour l'instant, c'est la démo, ça n'existe pas encore.
Pour le moment, ça n'existe pas. Mais clairement, à terme, ça existe.
Avant d'acheter 5 litres, teste sur une petite fiole quand même.
C'est clair.
On ne sait jamais. Tu as un raté, un mot qui dérape.
Non, mais je trouve l'idée. En revanche, je trouve l'utilisation de l'IA, on voit beaucoup d'IA de création. Dans la création d'un parfum, j'ai quand même demandé aux parfumeurs s'ils n'avaient pas peur que ça leur prenne leur taf. Parce que c'est vrai que tu te dis, si l'IA elle fait mon parfum, est-ce que j'ai encore besoin d'un nez véritable ? Non, il reste quand même des ajustements derrière qui sont faits pour que ça corresponde. Et eux, ils ne sont pas du tout inquiets. Ils voient ça comme une plus-value par rapport à toute la connaissance qu'ils ont emmagasinée déjà.
Très bien. Et puis, il y a aussi le côté statutaire du parfum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas acheter un parfum d'un grand couturier ou d'une grande marque, etc. Il y a aussi ce truc-là.
Là, c'est vraiment l'IA comme un outil
bien sûr.
De l'humain et pas comme
c'est
un...
C'est presque un proof of concept.
Exactement, quoi, et c'est pas possible de remplacer sur des choses aussi sensibles un être humain.
Non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de me dire
ça,
que...
Tu sais quoi, ça peut être une bombe anti-défense, plutôt, à mon avis, tu sais quoi.
Et puis après, tu vas regarder facilement.
Ça. Si un samedi, on t'embête dans le RER.
Mais je vais le garder là, pour ce plateau, vous allez voir, ça va mal se passer.
Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve facilement l'agresseur après, quoi.
C'est clair.
Voilà. Mais ce que je trouve intéressant,
j'attends
c'est
les
que
votes, messieurs, j'attends les
l'étape d'après, ça sera peut-être aussi de prendre en compte la propre odeur de la peau pour l'adapter.
Bien sûr.
Enfin, c'est super intéressant, quoi.
Parce qu'on a tous des supports de peau différents.
Ceux qui ont lu le parfum le savent.
C'est
très vrai. Je discutais donc avec le parfumeur qui travaille là-dessus. Et qui m'expliquait que eux, dans tout leur registre, ils travaillent aussi à l'international. Et en France, on ne le fait pas. Mais ils ont des registres où, en effet, ils sont capables de dire une femme ou un homme de 30 ou 50 ans n'a pas la même. Déjà, enfin, souvenez-vous tous, on n'a pas les mêmes parfums. On n'a pas eu les mêmes parfums à 20 ans qu'on a aujourd'hui. En fait, eux, ils font ça. Et aussi en fonction de la nature de la peau, de choses comme ça.
D'accord.
En France, on n'a pas le droit à ces critères-là. Aux États-Unis, ils ont le droit. Et donc, ils peuvent vraiment pousser la personnalisation pour avoir des parfums. Ben, vous savez, quand on dit, ah, le parfum, il tourne un peu sur ma peau. C'est une réalité en fait.
Très intéressant. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler tracteur avec Pierre Fontaine, puisque.
Eh ouais. Chacun ses passions. Alors, c'est pas trop genré. C'est pas trop genré. C'est ça qui est bien. C'est qui est bien. Parfum, tracteur. C'est parfait.
Tout va bien. Alors, Pierre a deux passions dans la vie, le jeu vidéo et les tracteurs. Allez savoir pourquoi. D'ailleurs, je crois qu'il existe des simulations de tracteurs.
Exactement.
C'est Farming Simulator.
C'est l'un de tes jeux préférés. Ouais. Mais avant de retrouver ça, et je pense que franchement, vous avez hâte, on va écouter Anthony, parce que Anthony, évidemment, pour BFM Business et pour RMC, tu as fait un peu le tour. Tu as vu un truc qui a l'air étonnant, ce sont des lentilles un peu particulières.
Exactement, alors chacun ses hobbies effectivement et ses passions et ses prises, mais moi vous savez que je suis un petit peu hypochondriaque, hein, ceux qui nous écoutent régulièrement.
Pourquoi un petit peu
lourd? Personne ne le sait. Voilà.
Donc en fait je fais la razzia à chaque fois sur toutes les innovations pour la santé, et alors là j'ai croisé un truc assez dingue, c'est des lentilles connectées, alors qui ont plein de fonctionnalités. C'est sur le stand d'une start-up qui s'appelle Xpanseo. Ces lentilles, première chose, alors elles permettent de mieux voir, ce qui est pas mal pour des lentilles. Mais en plus de ça, elles vont analyser tout un tas d'indicateurs de santé, c'est-à-dire qu'elles peuvent tracer et détecter un certain nombre de maladies. Donc en fait, à l'intérieur des lentilles, vous avez des capteurs qui vont aller goûter, entre guillemets, le liquide lacrymal, donc les larmes.
Ah ouais ?
Et qui vont aller, par exemple, eh bien, analyser en temps réel la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est extrêmement intéressant pour les patients diabétiques. Je me souviens que Google avait lancé une expérimentation comme ça,
c'est
mais
ce
il y a 15 ans de ça, quelque chose comme ça.
Oui, ils en ont refait il n'y a pas longtemps, juste sur l'œil, en fait, de regarder le blanc de l'œil et d'être capable de...
Et bien là, en fait, maintenant, c'est vrai que la miniaturisation des composants permet de faire une lentille qui va permettre d'analyser ces indicateurs-là en temps réel. Donc c'est génial, tu vas pouvoir savoir en temps réel le taux de sucre dans le sang, comment il varie en fonction des aliments que tu viens d'ingérer, ce genre de choses. Tu vas pouvoir aussi analyser la pression dans l'œil. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est les signes avant-coureurs de maladies comme le glaucome. Donc tu vas pouvoir, avant que la maladie n'apparaisse, dire « Ah, il y a un truc un peu bizarre, peut-être que tu devrais aller voir le médecin. » Tu vas pouvoir, le soir, tu vas dormir, tu les mets dans un boîtier et on va venir analyser plein de molécules et on va détecter un certain nombre de maladies, des traces de médicaments, si tu as bien pris ton traitement, s'il fait effet, enfin plein de choses comme ça. Donc première chose, c'est vraiment incroyable. Des gens qui vont prendre soin de toi. Déjà, je trouve ça complètement fou.
C'est un peu des éponges de ton organisme.
C'est exactement ça, c'est vraiment ça. Elles vont venir goûter, si tu veux, à la surface de l'œil et elles vont en analyser des éléments biologiques.
Mais est-ce qu'elles corrigent la vue ?
Alors, elles corrigent la vue, ça c'est quand même ce qui est bien.
Non, mais c'est pas mal. Base.
T'as raison, pour des lunettes, c'est bien. Mais c'est, tu sais.
Comme il y a des microprocesseurs dedans. T'es tout le temps là, tu vois rien. Tu
as regardé trop de séries télé, François.
Ta question est intéressante parce que je pense que, en fait, et c'est la même chose que quand on parle des lunettes connectées, finalement, on se dit, finalement, même les gens qui n'ont pas besoin de lunettes porteront ces lunettes parce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires. De la même manière qu'un smartphone, ça sert maintenant à tout sauf à téléphoner. Bah, en fait, les lunettes ou les lentilles de demain, elles auront plein de fonctionnalités supplémentaires. Et pourquoi je dis ça? Parce que, au-delà de ces fonctionnalités de santé, ce que peuvent faire ces lentilles, c'est qu'elles ont une fonctionnalité de réalité augmentée, donc elles vont projeter dans ton champ de vision un certain nombre d'éléments numériques, comme les lunettes dont on parle régulièrement. Alors évidemment c'est beaucoup plus petit, donc c'est plus rudimentaire, c'est en monochrome, c'est en monocolore, donc tu vas pouvoir avoir, je sais pas, ton rythme cardiaque, la vitesse à laquelle tu cours quand tu fais ton footing, les flèches du GPS, tout un tas d'indications comme ça. Alors j'en parle comme si c'était là maintenant tout de suite. Évidemment là on est sur du prototype, sur des choses qui sont pour l'instant de l'ordre plus que du concept, parce que vraiment tu as les prototypes, tu peux les tester, tu peux regarder dans la lentille et voir ce que ça donne, mais il va falloir des années évidemment avant que ça n'arrive sur le marché, d'autant qu'il faut plein d'autorisations réglementaires, médicales, on parle d'un dispositif médical, mais je trouve que la piste en tout cas est extrêmement extrêmement prometteuse. On parle souvent des lunettes connectées dans De quoi je me mêle. Ici à Vivatech, on est déjà sur l'étape d'après qui seront les lentilles de contact avec plein de fonctionnalités santé et réalité augmentée.
Moi ce que je trouve fascinant, c'est le fait de se dire qu'à l'intérieur de ces lentilles, il y aura des composants électroniques, des antennes, parce que évidemment, ça doit communiquer en Bluetooth ou je ne sais pas comment, tu vois. Une batterie. C'est fou. Ouais. Et imaginer que tout ça puisse être dans une lentille, j'ai presque du mal à y croire, en fait, en me disant, mais comment on arrive à faire ça? C'est dingue.
Mais c'est dingue aujourd'hui dans la vue, tout ce qu'on trouve, et on le sait, dans la vue et la voix sont en santé connectée. Sont porteuses actuellement, enfin, c'est un truc de fou. On sait que sur la voix, ils arrivent à déceler des micropareils sur le diabète, sur des maladies cardiaques, des choses que seule l'IA en fait arrive à percevoir. Ouais. Et c'est vrai que les lentilles, alors on en a vu aussi qui permettent de zoomer, dézoomer, ça avec la main. En gros, ça a passé par tes yeux. Moi, je sais que je porte des lunettes de temps en temps. La perspective de mettre des lentilles ne me plaît pas du tout.
Ah ouais?
Ah non, pas du tout. Et enfin, connecter comme ça, ça ne...
Les lentilles autofocus, c'est ça, qui font le point directement, non, comme si l'objectif d'un appareil photo. Ouais, non, mais c'est ça. Ça va être vraiment
fou. Et pour la santé, c'est fou.
Ça va être vraiment fou. Mais il y a plein d'innovations dans la santé, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais...
Alors, il y a ici l'Or Luxottica qui est vraiment là-dessus aussi. Ils sont présents ici à Vivatech. Et. Ils poussent vraiment très très loin ce curseur-là. Ils imaginent les lunettes de demain. Alors, ils ne sont peut-être pas sur les lentilles, mais justement, le fait simplement en analysant, si tu veux, la couleur de l'œil, la pupille, etc., l'intérieur de l'œil, ils arrivent à détecter des maladies qui n'ont rien à voir avec l'œil, finalement. Ça peut être, tu en parlais tout à l'heure, du diabète. Ça peut être aussi des maladies du foie, du rein. C'est dingue comme l'œil peut être révélateur de ton état de santé. Alors aujourd'hui, on n'a pas les bons... outils, les bonnes jumelles pour le voir, mais il paraît que c'est très prometteur.
Ouais, ça pourrait faire en plus des systèmes de dépistage ou de pré-dépistage, parce qu'évidemment,
exactement,
ça va pas se substituer à un médecin, mais ça peut te donner un mécanisme d'alerte qui dit, ah là, il y a peut-être un truc un peu bizarre, tu devrais aller consulter. Les gens vont pas forcément se faire dépister pour toutes les maladies, parce que déjà, ça coûte très cher, c'est très fastidieux, c'est très contraignant. Là, si tu peux avoir des mécanismes qui t'envoient un signal d'alerte directement dans un objet que tu portes tous les jours 24 heures sur 24, ou en tout cas pas quand tu dors mais la plupart du temps, forcément c'est une petite révolution et ça va en réalité sauver des vies, améliorer la longévité et la longévité en bonne santé.
Ça va pas rassurer notre Anthony ça, si sous les yeux en réalité augmentée il a tous les radars.
Ouais, c'est le problème aussi.
Moi j'ai un souvenir de toi sur les miroirs qu'on avait fait au CES avec toutes les... Après tu fais ça, on arrive, on était en jet lag, pas bien, et avec tous toutes les mesures qui te donnait ton état de santé.
Il me disait que j'allais mourir
globalement. Il était en stress d'aller tester. Il ne te faut pas ça, Anthony.
C'est ça. Non, mais vraiment, si j'en croyais.
Non, mais écoute, t'es pas trop hypochondriaque quand même.
Je suis un peu hypochondriaque.
Un tout petit peu. Est-ce que tu peux cacher le de ta transfusion sanguine?
Oui, c'est ça.
Sur le côté. On la voit à travers ta veste. Mais autrement, non, tout va bien.
Tout va bien.
Pierre, alors... On change carrément de sujet.
Ouais, mais moi, je suis un petit gars de la campagne, moi.
Non, mais je sais très bien, mais on le sait, bien sûr. Tu élèves tes poules, etc.
Non, à 18 ans, j'ai quitté ma province.
Oui, bien sûr. Bien décidé.
Exactement. C'était à peu près ma vie. Non, et en fait, on a vu ces dernières années, mois, qu'il y a une vraie tension dans le milieu agricole. Il y a une vraie difficulté.
Ne parle pas de tension à Anthony, s'il te plaît. Il va faire un malaise.
Il y a une difficulté à faire ce métier qui est un métier essentiel et qui a une multitude de causes. Et c'est bien ça le problème. Et alors, la technologie peut pas tout résoudre, mais il y a une des voies qu'il peut résoudre, c'est faciliter en fait l'optimisation du matériel qui est disponible aux agriculteurs. Et un des outils les plus importants, c'est le tracteur. Et généralement, dans l'exploitation, il y a plusieurs tracteurs, mais il n'y a pas forcément plusieurs exploitants. Ce qui veut dire que c'est super, on a deux tracteurs, mais il y en a un qui dort qui ne tourne pas pendant qu'on est en train de piloter l'autre. Et donc, il y a des solutions, une solution qui a été co-développée par une structure normande qui s'appelle Latitude, qui, en fait, permet de rétrofiter, c'est-à-dire on prend un tracteur qui n'est pas du tout autonome, on lui installe cet équipement et ensuite, il sera capable, dans un champ, je précise bien, il n'a toujours pas le droit d'aller sur la route, dans un champ, il pourra se déplacer et, par exemple, labourer, pratiquer des semis, tout ce qu'il y a besoin de faire dans un champ pour préparer la récolte ou la récupérer. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que cette solution-là, qui repose sur un ensemble de caméras, un signal GPS, va permettre à un agriculteur de faire, entre guillemets, deux choses en même temps. Par exemple, il va y avoir le tracteur autonome qui va labourer. Donc, on a une petite tablette et on lui demande occupe-toi de ce champ-là. Donc, il va proposer un parcours en évitant les arbres, donc tous les obstacles qui sont définis. Et ensuite, on valide le choix et il va se mettre à se déplacer dans le champ, par exemple à labourer. Ce qui fait que le paysan derrière peut être sur son tracteur et ensemencer directement. Donc ça gagne du temps et là où c'est super important, c'est que, alors je ne sais pas si vous avez l'occasion de discuter avec des agriculteurs, moi ça m'arrive quand je retourne dans mon petit village natal, c'est qu'effectivement il y a parfois avec le dérèglement climatique des plages pour travailler la terre qui sont hyper réduites parce que soit le sol est trop détrempé, on ne peut pas y rentrer, il est trop sec, on ne peut rien faire. Et donc en fait parfois ça joue à une semaine où il faut tout faire. Et donc là, en fait, ça permet de travailler à une personne sur deux choses en même temps. Et c'est super intéressant. Et d'un point de vue de la technologie, évidemment, il y a une détection S'il y a quelqu'un qui traverse, s'il y a quelqu'un qui s'évanouit devant le tracteur, il s'arrête, le moteur se coupe. Et en fait, l'IA, le système autonome, est capable de gérer le déplacement, donc démarrage et arrêt du moteur, le déplacement, tout ce qui est hydraulique, donc profondeur de labour s'il faut, adaptation du couple moteur. Enfin voilà, c'est vraiment comme s'il y avait un deuxième agriculteur.
Super.
C'est vraiment génial.
Mais ça existe déjà. Est-ce que c'est des prototypes tout ça?
Alors ça, c'est une solution.
Il y a déjà des agriculteurs.
J'ai évidemment posé la question parce que j'en veux un pour chez moi.
Évidemment.
Pour l'instant, il y a une phase d'expérimentation qui a été ouverte depuis janvier dernier. Et pourquoi on en est qu'à l'expérimentation alors que la techno est mûre? C'est que en janvier prochain, donc janvier 2027, il devrait y avoir un texte de loi qui donne le go à ce genre de fonctionnement, à de genre d'appareils autonomes dans les champs. Parce que effectivement,
on est bien d'accord
on est d'accord que sur les routes, pour l'instant, c'est super encadré. Et dans les champs, ça a besoin d'être encadré également pour pouvoir y aller. Mais la techno est prête. Et c'est donc une société française qui travaille avec une société néerlandaise qui a développé ça. Et je trouve ça super intéressant. Parce que jusqu'à présent, j'avais vu des choses un peu similaires aux États-Unis, notamment des boîtes qui ont été rachetées par John Deere, qui est un gigantesque... Un acteur majeur, mais qui est généralement...
toujours hyper présent avec des machines incroyables au CES.
Ah, bah oui, c'est
John Deere.
C'est le ténor.
Mais ce qui est bien là aussi avec cette technologie de rétrofit, c'est que tous les ingénieurs agronomes le disent, c'est pas une bonne chose de faire rentrer les tracteurs trop lourds dans les champs, parce que ça va tasser la terre, ça va écraser tout ce qui permet à la terre d'être vivante. Donc, il faut pouvoir faire rentrer des tracteurs qui sont pas trop lourds. Et donc, ça veut dire que si on a un tracteur un peu ancien, avec une boîte un peu automatique, on peut le rétrofiter et donc il sera moins gros.
Okay.
Et donc il tassera moins la terre et ça permet de rentabiliser le produit sur plus longtemps. Donc, en fait, c'est quand même plutôt bénéfique en tout, quoi.
Bon, est-ce qu'il y a CarPlay dans le tracteur?
Bah ouais, mais
parce que c'est quand même important. Excuse-moi, mais
il y a Netflix aussi. Ouais.
Il y a Netflix.
Mais ils donnent une idée de prix, combien ça va coûter?
Pour l'instant, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils l'ont déployé auprès d'une petite poignée d'agriculteurs pour voir ce que ça donne. Ils ont mis ils mettent à disposition un appareil qui est, un tracteur équipé pour que les gens voient comment ça donne. Et les premiers tours sont super positifs, mais ils n'ont pas fourni de prix, non.
D'accord.
Bon, bah écoutez, pour le tracteur, ça on est bon, ouais. C'est parfait. Quoi d'autre, les amis? Alors, on va repartir peut-être avec Melinda. On va parler data center et d'algues.
Ouais.
C'est quand même bizarre.
Et de sushi, du coup.
Et de souveraineté nationale. Et oui, ce camoulox que je viens de vous faire, c'est les
La souveraineté, le mot souveraineté est le mot de l'année. Ah ben.
Parce que tu commences à dire à Jensen Yang qu'on va mettre des algues dans ses data centers. Je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Hein,
ouais,
tu vois.
Non, mais je vais vous faire un peu d'IA, un peu de souveraineté.
Allez,
je vais cocher tout le bingo de Vivatech.
Et vous emballez ça bien, s'il vous plaît, madame. Hein. Alors, pas embêté.
Comme vous le savez, la très très grande, très très large majorité de nos données sont stockées à l'étranger, sur des data centers notamment américains. Et donc le mot d'ordre, c'est comment allons-nous rapatrier nos données personnelles en Europe notamment. Et en France, en fait, on a une entreprise qui s'appelle Data 4, Data 4. Selon la personne avec laquelle vous parlez, vous avez un nom différent. Ça fait 20 ans qu'ils existent, qui font des data centers. Et eux, leur idée, c'est pas de mettre des data centers en cœur de ville ou quoi que ce soit, c'est de faire en fait des campus de data centers en dehors des villes pour pas gêner justement, et parce que c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de bruit aussi, les gens qui habitent à côté vous diront.
Et surtout avec les chaleurs, il paraît qu'il y a des bruits incroyables. Je sais plus dans quelle région des États-Unis, j'ai vu un reportage où en fait tous
sur 500 mètres, ils entendent.
De ces data centers, un bruit incroyable, tu vois. Ouais,
Colossus One, le data center gigantesque qui n'est pas encore à pleine capacité de
P6
maintenant, enfin XAI.
Les nuisances.
Pollution, parce que ça...
Et puis t'imagines la chaleur que ça doit dégager.
C'est exactement, tu as touché du doigt le problème. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'installent en dehors des villes pour ne pas gêner le tissu urbain, pour ne pas gêner les gens qui habitent. À des endroits quand même stratégiques où, par exemple, vous allez avoir les câbles de connexion qui passent ou de la circulation de data. Et ils installent leur data center. Et donc, ils ont trouvé un système pour se servir de cette énergie et ne pas la perdre. Ils font pousser des algues.
Ah.
Et donc.
Bien évidemment.
évidemment. Et en gros, la chaleur dégagée des data centers fait pousser les algues. Ils se resservent de l'énergie des algues pour nourrir le tout.
Mais comment ils se servent de l'énergie des algues?
tu te sers, tu retransformes. Ils ont mis en place un système qui est comme un système de refroidissement quelque part du data center où tu gardes l'énergie. En fait, c'est quelque chose de biocirculaire.
J'aime bien le regard d'Anthony.
Ils se servent des algues pour les décomposer.
Tu vois, je vois
le data center, je vois les algues.
Tu vois les algues.
En gros, ils ont des bassins.
Moi, je vois les poissons.
Toi, tu veux un maquis entre les deux, c'est pour ça.
Ils installent des bassins sur les toits des data centers.
Ouais.
Ça fait pousser des algues.
Et l'énergie des algues sert à renourrir, en gros, si tu veux, et redistribuer dans le circuit des data centers. D'accord. Mais ils commencent à avoir trop d'algues. Donc l'idée derrière, ça va être de revendre aussi les algues, parce que vous savez qu'aujourd'hui, en cosmétique, dans agroalimentaire, et voilà.
Il dit vend 3 tonnes d'algues, ouais. peu cher, peu servi.
À Marcoussis, juste à côté d'ici, en plus pas très loin. Donc voilà, ils ont mis ce système en place qui fait que ça fait pousser les algues et ça les décompose pour remettre dans le data center. Donc ça limite la consommation d'énergie, ça permet d'avoir des data centers qui sont quand même assez
verts,
puissants.
Ils sont verts pour le coup.
Ils sont verts, qui sont à 500 mégawatts. Ils sont en train d'essayer d'en construire un à 700 mégawatts dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Et de ces campus de data centers, ils essaient aussi d'agréger du tissu local tech, des écoles, des entreprises, pour faire en fait comme des petites stations F, un peu partout, avec le tissu local tech, en plus de tout ça, qui servira évidemment des data centers français, européen, pour rapatrier toutes les données. Donc il y a quelque chose de très intéressant, qui est très en progression, qui est très dans l'air du temps, on l'a dit, souveraineté européenne et encore plus nationale. C'est une tendance vraiment, vraiment de ce salon.
Là, c'est vrai que sur le salon, on parle vraiment que de ça, souveraineté technologique, mais c'est aussi, c'est pas un hasard de l'actu, j'allais le dire, mais on a eu l'histoire anthropique au début de la semaine avec.
Il y a les déclarations de Sébastien Lecornu aussi.
C'est-à-dire que l'actualité
récente rattrape en fait ce salon parce que de toute façon, la souveraineté, ça fait des années qu'elle est présente à
l'Atlantique. Absolument. Mais là, quand tu vois que la Maison Blanche demande à Anthropique de couper dans le monde entier, on se rend compte en fait que. D'un jour à l'autre, les États-Unis peuvent couper le robinet technologique et qu'on peut se retrouver, mais vraiment comme des imbéciles avec vraiment tout
avec,
lui, quoi.
Avec toutes nos données à l'étranger.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu fais de toutes tes données si un jour c'est coupé?
Et donc on le voit bien là. Sur le salon, il y a vraiment plein de trucs. Hein. T'as un salon. T'as une partie du salon qui est dédiée aux solutions cyber, logicielles françaises en alternative aux hyperscalers. Ça c'est assez intéressant. On a vu aussi que la DGSE, alors ils ont un stand hein, aussi les services, les renseignements. Ils ont abandonné Palantir cette semaine au bénéfice de Chaps Vision, qui est une entreprise française.
Donc on
voit quand même qu'on a un mouvement. Je pense que c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle, mais là pour la première fois, on a l'impression qu'il y a des mesures vraiment concrètes et qu'il y a une réelle prise de conscience
et une urgence peut-être
et
même.
Une urgence, exactement, parce que tension géopolitique, etc. Et que là en fait, on est un peu au pied du mur. Il faut s'y mettre. Je pense que ton innovation, elle entre un peu dans ce cadre-là.
Là, on fait double emploi, je te dirais. Il y a la question de la souveraineté, il y a la question de l'environnement. Aussi de faire appel à des algues, et c'est vrai que c'est presque le truc le plus facile à faire pousser. Réchauffement climatique n'aidant pas, aidant dans cette situation-là, mais n'aidant pas le reste du temps, il y a quelque chose vraiment, et on sent que eux, en fait, leur innovation, ça fait 20 ans en fait, qu'ils bossent sur plein de choses, elle arrive au bon moment. Là, ils sont sur des phases de tests un peu partout. Ils travaillent avec l'université de Paris-Saclay, par exemple, pour améliorer tout ça. Donc vraiment, je pense qu'ils sont... DataCat, ils sont à la croisée des chemins et vraiment au bon endroit, au bon moment.
Très intéressant tout ça, ouais, c'est clair. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est quand même fou de se dire qu'une IA américaine est coupée aux étrangers.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même dingue, ça c'est l'actualité. Alors, en marge un petit peu de ce Vivatech, mais c'est vrai que c'est très géopolitique, etc. Mais Anthropique sort une IA tellement puissante que le gouvernement américain dit, vous savez les gars, on va la garder aux Américains. Mais on se dit, ok, bon, pour ce truc-là, c'est grave, mais imaginez demain, le gouvernement dit, vous savez quoi, les produits Google, on va les garder pour les Américains. Ça va être sympa.
Ouais.
C'est-à-dire que ça, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore, une fenêtre, une porte qui est quand même assez incroyable.
Oui, en fait, on se rend compte d'une chose qu'on savait déjà, mais sauf que là, on en a l'illustration concrète peut-être pour la première fois, qu'on est en réalité une colonie numérique aujourd'hui des États-Unis et demain de la Chine. C'est-à-dire qu'on est complètement à la merci de ces grands groupes internationaux et des gouvernants qui les dirigent et qui peuvent prendre des mesures. Là, en l'occurrence, quand la Maison Blanche demande à Anthropique, maintenant vous coupez, Anthropique, ils coupent, hein, ils n'ont pas tellement le choix. Et donc, en fait, alors, sachant qu'Anthropique, je trouve qu'ils jouent aussi un double jeu, c'est-à-dire qu'ils ont ce double discours de dire d'un côté, on développe les modèles les plus dangereux, enfin les plus dangereux, les plus puissants et donc potentiellement dangereux. Oh là là, regardez, Mythos, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Retenez-moi parce que vraiment c'est trop trop puissant. Et puis d'un autre côté, le jour où on leur demande de couper, ils disent ah bah oui, mais là ils nous ont demandé de couper. Bah oui, les gars, non. Évidemment. Si vous dites aux gouvernants, on a des modèles extrêmement puissants, extrêmement dangereux, bah le jour où vous avez effectivement des gens qui arrivent à en plus court-circuiter ces modèles, qui pourraient, je le rappelle, hein, mais s'ils étaient libérés dans la nature, détecter des failles de sécurité absolument critiques dans des logiciels qu'on utilise au quotidien, qui pourraient permettre potentiellement, c'est ce que dit Dario Amodei, aider à développer des armes bactériologiques, oui. Ce genre de choses. Encore une fois, c'est le discours d'anthropique que certains appellent du marketing de la peur. Mais évidemment que quand les gouvernants entendent ça, ils les prennent au mot à un moment. Donc c'est pas très étonnant finalement cette décision. Mais nous, ça nous met dans une situation qui est très compliquée et qui nous fait dire il faut qu'on ait.
Mais c'est intéressant. Est-ce que c'est plus par protectionnisme américain ou simplement pour protéger la planète? En fait,
en l'occurrence,
tu le racontes, oui. On peut se dire aussi que c'est une manière peut-être de ralentir la propagation d'une technologie qui peut être dangereuse à l'échelle de l'humanité.
Oui, mais c'est tu vois ce que je veux dire.
Non, mais dans ce cas-là, tu l'interdis totalement. Elle est de facto retirée aux États-Unis parce que ce qu'ils ont demandé, c'est d'interdire à toute personne qui ne soit pas américaine, qu'elle soit sur le sol américain, qu'elle travaille chez Anthropic ou qu'elle soit à l'autre bout du monde, d'avoir accès à ces modèles-là. Et vu qu'ils n'ont pas fait en sorte qu'il y ait ce type de filtre qui semble un petit peu aberrant malgré tout, ils ont été obligés de tout fermer. C'est ça le fond du problème. Mais il y a une réalité aussi, c'est que ce qui a produit la décision de fermeture, c'est une espèce de démonstration de chercheurs d'Amazon qui est beaucoup décriée par beaucoup d'experts en cybersécurité depuis, dont Phil Zimmerman, qui est quand même le patron, l'inventeur, le créateur du modèle de chiffrement qui est au cœur de la technologie des mails. Donc c'est un mec qui s'y connaît un petit peu en cybersécurité et qui dit, là en fait, votre truc est pas probant. Ce que vous lui reprochez, à ces modèles les plus récents, est aussi vrai sur les modèles plus anciens. Donc en fait, effectivement, il faudrait tout interdire. Donc c'est un petit peu du pipeau. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Là, il y a clairement... à mon avis, un côté levier de négociation à la con, si je puis me permettre, de Donald Trump.
Oui, c'est clair. Vous avez vu, dans De quoi je me mêle, on commence par fleurs ardentes et on termine sujet hyper grave, hyper anxiogène sur l'avenir d'une IA hyper dangereuse. Quoi. C'est quand même ça. Mais c'est ça qui est plutôt pas mal.
C'est une fleur ardente, c'est le nom de code du prochain modèle d'entreprise.
C'est ça. Il sent l'IA.
Ou Mistral, c'est le Mistral.
C'est le Mistral. Ah oui, bravo. On revient dans un instant pour cette deuxième partie de quoi je mêle. Et on va évoquer là aussi, excusez-nous, mais une bien mauvaise nouvelle. Si vous comptiez vous offrir un nouvel iPhone pour la rentrée, commencez à casser le PEL dès maintenant ou mettre de l'argent un peu plus de côté parce que les prix vont augmenter. On va tout vous expliquer dans la deuxième partie de quoi je mêle avec Mélinda, avec Pierre et avec Anthony. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
C'est la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là. Audio, le podcast dès le vendredi midi, la version vidéo sur YouTube et puis le week-end bien sûr diffusé sur BFM Business à la radio et à la télé. Merci d'être là. Je vous rappelle aussi, si vous êtes avec nous pour la version audio, quelques minutes supplémentaires vous attendront. Exprès pour vous à la fin du podcast. Toujours avec Mélinda Damansoulas de la rédaction de BFM Tech, tout comme Pierre Fontaine, rédacteur en chef de BFM Tech, rédacteur en chef adjoint.
Oui, adjoint.
Adjoint, attention.
Non, il faut pas me donner
trop de
couronne.
Parce que tu es rédacteur en chef des tracteurs, ça c'est
oui,
vrai.
Oui, je suis
chef des tracteurs.
De BFM Tech.
Je m'y connais en rayon tracteur.
C'est vrai. Et puis Anthony Morel, journaliste à BFM Business, que vous retrouvez le matin sur BFM Business, mais aussi à la mi-journée sur RMC. Avant de parler encore de Vivatech, parce que vous l'avez remarqué, si vous êtes avec nous en vidéo, il y a cette petite rumeur, ce petit brouhaha. Nous sommes au cœur de ce salon Vivatech qui se déroule jusqu'à samedi prochain. Jusqu'à ce samedi. Et je vous rappelle en plus que ce samedi, c'est une journée qui est ouverte au grand public. Donc vous allez pouvoir découvrir toutes ces innovations. C'est vraiment très sympa cette initiative de Vivatech d'ouvrir en fait au plus grand nombre le samedi pour voilà, découvrir la robotique, l'IA, on parle de souveraineté aussi, c'est des sujets intéressants et peut-être aussi vous ouvrir les yeux sur votre prochain métier parce que c'est dingue là, il y a plein de métiers inspirants qu'on ne peut pas imaginer qui sont là et c'est vrai que si vous êtes étudiant et que vous vous dites bah tiens qu'est-ce que je pourrais faire plus tard, je ne sais pas trop, je sais que la tech m'intéresse, venez ici, venez vous balader. Il y a plein d'idées.
Et même les auditeurs ou les gens qui suivent De Quoi Je Me Mêle, qui sont donc a priori intéressés par la tech, ou alors ils se sont trompés d'adresse, mais pourquoi pas.
Ou alors par accident.
Voilà.
Ils disent, comment je fais pour arrêter ?
C'est quand même une occasion assez rare de rencontrer les gens qui font la tech.
Ouais.
Parce que nous, on en parle, on l'utilise de manière un peu avancée. Mais on n'est pas, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas développé de trucs complètement fous. Et là, on rencontre des gens qui, comme on l'a dit un petit peu déjà, font la tech, s'en servent, innovent. Et c'est quand même, c'est rare en fait.
Plus des superstars, cool. Parce que tu as quand même Jeff Bezos.
Bien sûr, il y avait Jeff Bezos.
Il est sur le stand AWS. Non.
On le croise moins dans les allées.
C'est rare.
Chez moi, il est venu me livrer mon colis dans le 15e.
En fusée.
Écoute, en passant, ça lui demanderait une plus.
C'est ça. Ben, je n'ai pas compris, il n'a pas voulu rester très longtemps. Alors, voilà pour Vivatech. Un mot quand même sur l'actu brûlante qu'on voulait évoquer, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment, avec la chaleur qu'il fait actuellement. Mais Tim Cook a décidé de prendre peut-être une dernière fois la parole. Et franchement, on se serait bien passé quand même de sa dernière déclaration.
Moi, j'ai préféré son good morning quand même.
Ouais, je préfère son good morning. Parce que là, c'est pas trop amazing ce qui va se passer. Melinda, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'a déclaré officiellement Tim Cook. Là, on n'est même pas dans une rumeur.
Ah,
on n'est pas dans un journaliste qui aurait entendu dire que Tim Cook a pris la parole pour annoncer.
Ah bah, source Tim Cook lui-même. Eh bien, ça va coûter plus cher l'iPhone, dites donc les amis. Parce qu'il y a un petit problème qui avait l'air de pas concerner Apple en ce moment, qui est la fameuse crise de la RAM. On vous en a parlé en long, en large et en travers. La RAM coûte plus cher. De la RAM, il y en a dans tout. Il y en a notamment dans les iPhones, même si Apple veut jamais dire combien, il y en a quand même. Il y en a dans les produits. Et bien, à partir de la rentrée, il va falloir mettre un petit peu plus d'euros dans le prochain iPhone qui arrivera.
Il n'a pas donné de date.
Il n'a pas donné de marge.
En fait, il a dit que la hausse des prix était inévitable parce que les tarifs étaient maintenant, grosso modo, ils ne pouvaient pas les absorber. Il y a un côté insupportable en marge, quoi, en termes de marge.
Même pour Apple.
Il a déclaré au Wall Street Journal, donc c'est pas.
Oui.
Voilà, c'est plutôt fiable.
Anthony, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Apple était toujours un peu protégé de ça, visiblement, mais là en fait ils se font rattraper par la patrouille.
Ah bah très clairement, de toute façon je pense que personne n'est réellement protégé parce que tout le monde fait appel à ses composants, tout le monde est soumis à l'augmentation des prix. Là où ils auraient pu être protégés, ou en tout cas ils auraient pu en protéger le consommateur, c'est-à-dire que la différence d'Apple par rapport aux autres fabricants de téléphones, et là on va entrer dans les détails un peu business, économique, pardon, je mets la casquette BFM Business, mais c'est qu'ils ont une marge nette qui est absolument énorme, Apple, c'est-à-dire ce qu'il leur reste à la fin, quand ils ont tout payé, quand sur la vente d'un smartphone, d'un iPhone, il leur reste à peu près 27%. C'est massif, si vous comparez à des marques chinoises, ils sont plutôt autour de 6 ou 7%. Donc ils auraient pu dire, on va l'absorber, on va absorber une partie du coût et on va préserver les prix. Mais non, là, c'est pour ça que le discours de Tim Cook est rigolo parce que il a l'air de dire non, on n'a vraiment pas le choix. Si vous avez le choix, vous faites le choix de préserver vos profits. Moi, pour moi, c'est pas un gros mot. Hein. Je dis pas que c'est mal ou quoi que ce soit, mais la réalité économique, elle est là.
Il y avait une solution.
Il y avait une solution, c'était de prendre au moins une partie du coût de fabrication pour eux, et puis peut-être d'en répercuter une partie sur le consommateur. Parce que là, alors ils ont pas donné d'augmentation de prix exacte, mais il y a des analystes cités par le Wall Street Journal qui expliquent que pour préserver sa marge brute avec l'explosion des prix, donc de la RAM et des NAND, donc de la mémoire et du stockage, eh bien il faudrait une augmentation sur le prix d'un iPhone moyen de $270. $270, vous imaginez, c'est énorme, c'est absolument considérable. Donc on va voir ce que ça donne.
Ce ne sera pas autant, je pense.
Non, parce que je pense qu'il y a quand même des variables d'ajustement, c'est-à-dire qu'Apple a, à mon avis, un pouvoir de négociation malgré tout qui reste puissant. Donc il touche la mémoire, même si elle a augmenté, à des prix intéressants. Et peut-être qu'ils vont gratter quelques points de marge quand même aussi. Je sais que ce n'est pas trop dans leur habitude, mais on peut imaginer que en jouant sur tous ces curseurs-là, on aura une augmentation qui sera peut-être digeste.
Tu disais qu'il va falloir casser le PEL. Je pense qu'il fallait déjà casser le PEL et que maintenant il va falloir casser le PEL et l'assurance vie.
Oui, c'est ça. Ça va surtout si vous voulez peut-être le futur iPhone pliant qui, alors lui,
qui sera de toute façon à un prix stratosphérique et la crise de tout ça n'aidant pas. Après, Apple. Pour le moment, ils sont à peu près les seuls qui n'ont pas augmenté leur prix. Souvenez-vous que sur les MacBook qui sont sortis, il y a même eu une baisse, si je me souviens bien, sur le MacBook Air. Le MacBook Neo, le fameux qui est arrivé et qui remplit bien les caisses, est arrivé quand même à un prix. On était un peu tous estomaqués. L'iPhone n'avait pas augmenté. Ils ont ce pouvoir qu'ils avaient sur le fait d'avoir de la logistique toujours en avance. Ils ont des stocks. Apple, la force, ça a été la force de Tim Cook pendant toute sa mandature.
Plus que du stock, c'est des contrats d'achat à 3 ans. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Ils ont ils ont des prix garantis jusqu'à ce qu'il faille leur négocier. Quoi.
Et je pense qu'on arrive au moment de la renégociation, là où tous les autres concurrents chinois, notamment, ont fait sauter les prix. Soyons honnêtes, il y a des trucs qui sont à des prix exorbitants.
Il faut dire
ils avaient encore un peu cette petite marge. Bah oui, mais à un moment, même pour Apple, ils sont rattrapés par la patrouille.
Depuis octobre 2025, le prix de la RAM, il a fait x2 quand même, voire un poil plus. Donc, c'est, effectivement, sur quelque chose qui représentait 15-20% selon du prix total, quand on multiplie par 2 le coût, forcément, ça a un impact. Quoi.
T'imagines à quel point les boîtes qui fournissent la RAM aujourd'hui se gavent, mais c'est un truc de fou furieux, incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rappelle, c'est deux chiffres moi que je trouve complètement fous, ce chiffre et puis cette anecdote. Donc on parle d'entreprises, donc c'est Samsung, SK Hynix et Micron, qui sont les trois gros fabricants. SK Hynix, ils ont versé une prime d'intéressement et de participation à leurs salariés de moyenne, $400,000. Ouais. $400,000 pour la prime annuelle de participation au résultat. Et le deuxième truc que je trouve hallucinant, et Samsung a dû faire un peu la même chose, il sent un peu moins, mais ça doit être genre 200,000, ce qui est pas mal quand même. Et aujourd'hui, sur les sites de dating coréens, donc l'équivalent de Tinder en Corée du Sud, les profils les plus recherchés, c'est les salariés de SK Hynix.
Ben oui, forcément.
Plus que les médecins ou les avocats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu bosses chez SK Hynix, c'est tellement bankable, t'es un bon parti. Quoi. Je trouve ça ouf, je trouve ça incroyable.
S'il met le parfum fleur ardente, alors là, ça swipe, ça n'arrête pas. Quoi.
Imagine pas la RAM qu'il faut pour faire ça. Quoi.
Non, mais après.
Et c'est vrai d'ailleurs que la création de ce parfum est un tout petit peu responsable de la hausse des prix de
l'effet papillon.
En définitive, c'est vraiment l'effet papillon, effectivement.
Évidemment.
Enfin, l'effet fleur ardente, pardon.
Pour devenir juste, pendant quelques secondes, un petit peu plus sérieux, c'est vrai que malgré tout, l'équation, elle est compliquée pour Apple. Parce que c'est bien beau d'augmenter les tarifs, mais il faut aussi arriver à vendre les iPhones. Parce que si tu as un prix trop dissuasif, tu vas effondrer en fait les ventes. Et c'est pas bon ça non plus. Ouais. Tu vois.
C'est vrai.
Donc,
ça reste Apple.
Juste milieu.
C'est terrible, mais ça reste Apple. Ils ont
tu te retrouves avec 100 balles de plus sur un iPhone, ça va être un cauchemar.
Souvenez-vous quand il y a eu l'histoire du taux de change, c'était pour l'iPhone 14, je crois, qui était sorti, qui avait basculé en prix, où on était à peu près à ce que moi j'appelle le taux de conversion Apple, qui était du 1 pour 1 entre dollars et euros. Et soudainement, on avait payé beaucoup plus cher. Là où tu as raison, c'est que l'iPhone 14, c'est de fait moins bien vendu. Déjà parce qu'il avait peu d'innovation par rapport au 13 et que pour, à l'époque, 100 ou 200 balles de moins, on pouvait prendre celui qui avait un an
avant. Et encore, c'était qu'en Europe. C'était pas aux États-Unis.
Non,
aux États-Unis,
c'était ça.
Les ventes pouvaient carburer, tu
vois. Mais le 14, c'était quand même vendu, un peu moins certes. Là, à l'échelle mondiale, c'est là où je pense que la hausse, elle peut en effet pas être de $250 ou €250. Parce qu'à un moment, oui, forcément, tout Apple que tu es avec ta marge tranquille et ta communauté qui te suit.
De toute façon, il y a plusieurs cabinets d'analystes qui font des projections sur l'état du marché des smartphones qui disent que pour cette année, il va y avoir une baisse entre 13 et 15% des ventes. C'est forcément pas une bonne année parce que c'est plus cher. Donc les gens disent je vais attendre. Le problème, c'est que la crise de la RAM, l'assèchement du marché de la RAM par la construction des data centers n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça veut dire qu'on est parti pour un petit moment encore avec des prix qui flambent
et alors,
qui sont hauts.
Et après, on pourrait se dire mais pourquoi ils construisent pas plus d'usines pour fabriquer de la RAM ? Le seul problème, c'est qu'il faut 5 ans pour fabriquer
ça.
Fabrique de la RAM.
Les premières vont arriver d'ici 2 ans. Hein.
Voilà,
c'est pas un supermarché.
C'est pas un truc que tu fabriques. Tu dis tiens, fais-moi un peu plus de flanc parce que j'ai l'impression que ça se vend mieux.
Évidemment.
Non, là, c'est vraiment des produits de très haute technologie.
Et puis c'est des investissements très lourds aussi.
Ça nécessite des années en fait d'investissement dans des usines, c'est ça qui est terrible.
Ouais.
Donc pendant un moment, on est figé. Et ça va être intéressant de voir comment Apple arrive à ménager la chèvre et le chou, si je puis dire, entre augmenter le tarif de ces iPhones parce qu'ils n'ont pas le choix, mais pas trop pour ne pas devenir dissuasif.
C'est ça.
Et conserver quand même des ventes intéressantes.
Mais bon, attendez-vous à une douille au mois de septembre, c'est tout ce qu'on peut dire.
Ne partez pas en vacances, pensez à votre prochain iPhone. Mettez les sous de côté.
Non, mais ça va être, les gens vont se, ils le font déjà d'ailleurs, ils vont beaucoup vers le reconditionné. Et puis il y a des fabricants aussi, je pense qu'Apple le fera pas parce que c'est pas vraiment dans leur ADN, mais qui commencent à faire de la shrinkflation technologique, c'est-à-dire à faire le même produit mais avec un peu moins de grammes, et on te le vend au même prix, comme les paquets de chips où plus, au lieu d'avoir 100 grammes, t'as 80 grammes, mais t'as l'impression d'avoir le même paquet. Bon bah ça va être, je pense qu'on va avoir ce genre de phénomène. Je suis pas certain que Apple le fasse.
On enchaîne et on revient à Vivatech parce que ce soit Melinda, Pierre ou Anthony, ils ont encore pas mal de choses à nous raconter. Et Anthony, j'aimerais que tu nous parles de... Tout à l'heure, c'était les lentilles connectées. Tu as vu aussi des choses très intéressantes dans le domaine des interfaces homme-machine.
Ouais.
Cerveau-machine, finalement.
C'est ça. C'est un peu la même thématique d'une certaine manière. C'est ce qui me fascine d'une manière générale. Moi, c'est la thématique de l'homme augmenté, c'est-à-dire vraiment... ajouter des fonctionnalités supplémentaires à travers, donc une lentille, ça peut être un exemple, mais aussi avec un casque neuronal par exemple. Alors ça, c'est ce qui est présenté par une start-up française qui s'appelle Abs. Ils étaient déjà là l'an dernier, ils sont revenus cette année, ils ont mis au point un dispositif qui permet en fait de piloter des objets par la pensée, donc comme un maître Jedi d'une certaine manière. Ça rappelle un peu le projet Neuralink d'Elon Musk d'ailleurs, hein, sauf que t'as pas besoin d'avoir une puce dans le cerveau.
Là.
Voilà, c'est beaucoup moins intrusif, tu as juste à avoir le casque. Ouais. Le casque analyse.
Ça change pas mal de choses quand même.
Ça change deux, trois trucs quoi.
Voilà, ça change un peu quand même.
Une petite opération en moins, un truc dans le cerveau en moins, bon, c'est pas mal quoi. Et donc, simplement en te concentrant, tu vas pouvoir faire décoller un drone, tu vas pouvoir piloter un objet, ouvrir une porte. Alors, pas n'importe quelle porte ou n'importe quel drone, vous avez bien compris, il faut que ce soit configuré pour ça, il faut qu'il y ait les composants à l'intérieur. Mais en tout cas, le principe est celui-ci. Alors là, ils font une démonstration. Bon, c'est rigolo, c'est avec un robot où en gros, tu as un casque sur la tête. Et le robot va essayer de déchiffrer à quoi tu penses. Donc tu tires une carte, tu dois prendre une carte en compte. Toi tu la vois, le robot la voit pas et il doit deviner la carte que tu as tirée. En gros c'est ça. Et donc ça montre bien à quel point on est capable de décrypter les ondes cérébrales. Alors écoute, j'ai pas fait encore l'expérience, j'ai vu qu'ils le proposaient, mais j'ai vu d'autres trucs qu'ils avaient fait l'an dernier, ils avaient fait un truc assez marrant aussi. Pour te dire, tu peux pas simplement piloter des objets, tu peux aussi te servir de ces casques pour analyser les sensations et les émotions des gens. Et donc là, c'était un truc où on te faisait goûter un macaron.
Ah, je me souviens.
Et on voyait tes émotions en fait, et en gros les zones du cerveau qui sont titillées, est-ce que tu aimes bien ou pas? Parce que quand on te pose la question, tu peux mentir, mais ton cerveau il te trahit forcément. Et là, on arrive dans un truc qui est absolument fascinant, un peu flippant aussi. Ce qu'on appelle le neuromarketing, c'est-à-dire les marques qui vont en fait te demander, alors dans le cadre d'études consommateurs, hein, de porter un casque, on va te faire tester des produits et on va être savoir de manière très très précise finalement ce qui plaît aux consommateurs ou pas.
Mais c'est horrible. C'est dingue. C'est absolument horrible.
C'est horrible.
Tu peux plus être tranquille avec tes pensées, tu rentres dans un magasin. C'est... Déjà, j'aime pas quand je rentre dans un magasin être assailli par les vendeurs et les vendeuses, mais là si maintenant on me dit attends, mets un casque pour que je vois ce que tu penses de mon produit.
Oui, voilà.
Je trouve ça absolument
non
horrible.
Mais l'idée de pouvoir contrôler des, enfin t'imagines pour le handicap par exemple à quel point c'est une révolution quoi, tu vas pouvoir piloter un exosquelette, un fauteuil roulant, peu importe, on peut imaginer vraiment plein de cas d'usage.
Non mais c'est formidable,
ça pourrait être révolutionnaire,
bien sûr. Et on en est qu'au tout début,
voilà,
de l'histoire. C'est
mais
ça qui est incroyable,
mais ça avance hein, mine de rien. Il y a pas mal de boîtes françaises qui font ça, et le dernier cas d'usage, et après je me tais, c'est la signature neuronale où on va pouvoir en fait utiliser aussi en fait ces casques, voire intégrer cette technologie dans des branches de lunettes pour analyser les ondes cérébrales qui sont pas les mêmes pour François que pour Melinda. Vous n'avez pas le même cerveau, vous n'avez pas les mêmes ondes, et donc on va pouvoir.
D'accord,
bien,
moi j'en ai pas. Ok,
comme ça.
Très bien. Ok.
Toi t'es sur ton tracteur.
Pierre, ça bouge pas. Il arrive. Ça fonctionne. Je sais pas. On a essayé, ça a pas fonctionné.
Pierre, on lui a mis le kit tracteur autonome.
Moi
ça
non
fonctionne
plus.
Ça super bien.
Et en fait, ça va, par exemple, pour remplacer la double authentification.
Joyeuse fête, Pierre.
Ou les mots de passe.
Ah ben, je suis content d'être venu.
Non, mais c'est très fastidieux, tu sais, la double authentification, machin, etc. Bah là, on pourra avoir une signature neuronale biométrique qui pourrait permettre, je sais pas, de déverrouiller son application bancaire, par exemple. Ouais, ça, c'est génial aussi.
Pas mal, mais j'aime bien le coup du macaron. Tu goûtes le macaron et en fait, on arrive à détecter tes émotions.
Imagine
un macaron.
Tu l'aimes pas le macaron,
avec
imagine.
L'arôme fleur ardente, par exemple.
Mais elle est très bien, mon parfum. Je vais tous.
Il y a des gens qui vont s'évanouir.
Non, mais je trouve que c'est une belle illustration d'une même technologie peut avoir deux usages. Un qui est effectivement hyper enthousiasmant et l'autre. Un poil flippant. J'avoue que le pénétrer, alors pas dans les fonds des pensées,
non,
mais d'avoir
s'immiscer.
D'avoir une vue sur ce qu'on pense intimement, ça, je trouve ça assez glaçant. Voilà.
Pierre, c'est à toi.
Pour la bonne cause, hein, même si c'est pour vendre quelque chose. Voilà, je trouve ça flippant. Ouais.
C'est à toi, évidemment. Tu...
Bah moi, je continue, moi.
Bien sûr, tu fais ton dossier France Travail est à fond.
C'est exact, t'as un message, c'est ça?
Non, pas du tout.
Tu veux me dire quelque chose?
Pas du tout.
Il t'a promu tout à l'heure, c'était pas mal déjà.
Ouais, c'est vrai. C'est la Roche-Charpéienne, le capitaine.
Je sais pas, je viens de recevoir un SMS de la direction, c'est pour ça. On me dit prestamment qu'il faut que tu testes une cabine à CV. Ouais, je comprends pas pourquoi.
C'est ça. Alors, effectivement, il y a... Alors nous, on parle de tech, on est connecté tech, on mange tech, on respire tech, voilà. Mais il y a en France, alors selon la police ou les organisateurs, il y a entre 10 et 14 millions de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle l'électronisme. C'est-à-dire en fait qui sont pas à l'aise avec la tech, qui sont pas à l'aise avec un ordinateur, qui savent pas comment ouvrir un traitement de texte ou même surfer sur le web. Voilà.
Et c'est... Alors tu sais quoi, j'ai appris un truc, l'électronisme. C'est pas le fait de ne pas savoir se servir de son smartphone, parce que tu peux très bien savoir aller sur TikTok, Instagram, etc., mais être atteint d'électronisme, parce que dès que tu es sur un PC, bah, tu sais pas comment ça marche.
Oui, et puis
c'est fou.
C'est procéder à... Parce que depuis des années, il y a beaucoup de démarches administratives qui sont dématérialisées.
Bien sûr.
Et en fait, quand on sait pas comment s'y prendre, quand on sait pas comment commencer... on se trouve face à un mur, là où avec un humain, grosso modo, en discutant, on pouvait y arriver au bout d'un certain temps. Et donc, bref, revenons à l'électronisme. Il y a une entreprise qui s'est rendu compte et qui a lancé donc Sibly Job que des gens avaient de la peine à trouver un emploi ou changer d'emploi parce qu'ils ne savaient pas faire un CV. Et un CV, on se dit, y a un modèle dans Word, on va y arriver, mais encore faut-il arriver à Word. Et donc là, en fait, on va utiliser l'IA, on va utiliser un assistant intelligent et on va lui parler, on va raconter son expérience professionnelle, raconter ce qu'on a fait comme étude, raconter ce qu'on voudrait faire et puis l'assistant va générer un CV, créer un CV avec la photo qui va bien, les informations d'adresse, enfin, tout ce qu'il faut dans un CV et va ensuite proposer à la personne de le valider et de l'imprimer pour qu'il puisse... postuler à...
Très bien.
Voilà. Et ce qui est vachement bien, c'est que cette espèce de cabine dont tu parlais, elle peut être installée assez facilement dans des commerces de proximité ou dans des galeries marchandes de supermarchés qu'on trouve partout en France maintenant. Donc autant dire que c'est quasiment un bureau de poste. Hein.
Ouais.
Et donc en fait,
c'est un photomaton CV. Quoi.
Voilà, c'est ça. On va faire ses courses. On se dit il faut que je fasse mon CV. On n'est pas à l'aise avec l'exercice, mais on a cet obstacle qui disparaît grâce à l'IA et grâce à ce projet. Et je trouve ça super intéressant parce que, mine de rien, on sait bien qu'il y a encore quelques dizaines d'années, il y avait des écrivains publics qui aidaient les gens à faire leur démarche, mais il y en a de moins en moins. Et se dire que la technologie, elle peut aider en ce sens-là des personnes qui sont... C'est pas des gens qui sont bêtes ou quoi que ce soit, c'est des gens qui savent pas gérer la tech et qu'on efface cet obstacle-là, je trouve ça génial.
Non, mais c'est super, franchement. Et ça arrive déjà, c'est déjà en route ou pas?
C'est déjà déployé.
D'accord.
Il y en a dans certains. Alors, elle est nantaise, l'entreprise qui fait ça, donc plutôt dans l'ouest de la France pour l'instant. Mais j'espère bien voir ça arriver dans l'est bientôt. Voilà.
Très bien. Alors, il nous reste quelques secondes. J'aimerais qu'on évoque aussi. Tout l'aspect what the fuck un peu, excuse-moi j'ai dit le nom de Vivatech parce qu'il y a aussi des innovations, on se dit mais pourquoi?
Parce que Fleur Ardente c'était pas une innovation what the fuck.
Il suffit,
je vous demande de vous arrêter.
Je vais asperger ce plateau, vous allez voir.
Quelle horreur. Non, j'aimerais que... Non mais c'est pas ça, c'est
choquée.
Ton parfum.
Je suis choquée, non je suis choquée.
Qui nous parle de ce porte-clé éthylotest?
Tout ce qui est santé, de toute façon, oui, c'est Anthony, le bien, le mal.
Non, mais mine de rien, alors c'est what the fuck, mais en même temps, c'est très sérieux.
Non,
ça
non, mais bien
vies.
Sûr, c'est vrai.
Pour le coup, c'est juste rigolo parce que c'est dans un porte-clés.
Il faut vraiment être bourré, quoi.
Oui. Non, mais c'est le crossover parfait, c'est vachement malin.
Non,
mais c'est excellent parce que. Quand je dis porte-clés éthylotest, c'est pas un éthylotest dans le sens où on ne souffle pas dedans. C'est ça,
pardon.
La technologie, parce que sinon on pourrait se dire ouais c'est juste un éthylotest embarqué dans un porte-clé, bon voilà. Ouais. Non, là en fait la technologie c'est le fait qu'en touchant le porte-clé, on va pouvoir savoir si tu es au-dessus ou en dessous.
Ah d'accord.
Ouais. du taux autorisé. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que cette boîte, ils ont réussi. Alors en fait, on sait que.
Bon, il faut pas se laver les mains avec la vodka, parce que vraiment, c'est pas bon là.
Le gel hydroalcoolique.
Ah, c'est une bonne question.
Donc, avec je me suis lavé les mains.
Je me pose avec le gel hydroalcoolique, je me pose la question. T'as raison, parce qu'en fait,
c'est vrai.
Quand on boit de l'alcool, alors on exude de l'alcool, une toute petite partie de l'alcool.
Ouais, on transpire un peu d'alcool.
Par la peau, voilà, exactement. Ouais. C'est à peu près 1% de la quantité qu'on ingère, mais cette petite quantité, on est capable avec des capteurs, et bien de l'analyser. Ensuite, il y a une IA embarquée qui va en déduire à partir de ça ou extrapoler et deviner, si tu veux, ton taux d'alcoolémie. Et le porte-clés va s'allumer en rouge ou en vert pour dire tu peux prendre le volant ou tu ne peux pas prendre le volant. Donc, je trouve que la techno est géniale. Tu vois, c'est plus simple encore que devoir souffler dans un truc. On n'a pas forcément le porte-clés, on l'a toujours à portée de main. C'est hyper simple. C'est une boîte française. En fait, au début, ils voulaient l'intégrer directement au volant des voitures.
Ah, oui. C'est pas bête.
Et tu pourrais, ce qui est malin, mais alors c'est compliqué parce qu'il faut convaincre les constructeurs, c'est une galère.
Enfin,
c'est
pas démarrer la voiture.
Voilà.
Si on détecte un taux d'alcoolémie.
C'est exactement ça. Avec une analyse en temps réel, c'est-à-dire que si tu te mets à boire.
On pourrait mettre ça sur le tracteur de Pierre aussi.
Ouais, sur le tracteur.
Autonome. Comme ça, il faudra savoir.
Mais ce qui est bien, c'est quand t'es ivre, t'en as deux pour le prix d'un. C'est pas mal.
Tu as des systèmes sur les bus scolaires, par exemple, où le conducteur doit souffler avant de partir. Mais là, pour le coup, tu l'intégrerais directement au volant. C'est compliqué parce qu'il faut discuter avec les constructeurs. Donc ils se sont dit, on va faire une première version.
À mon avis, pour les
en plus, parce
auto.
Que t'as le côté un peu liberticide. Enfin, je veux dire, vraiment la bagnole qui veut pas démarrer, tout ça. Bon, bref, c'est tout un débat. Mais c'est beaucoup plus simple de l'intégrer à un porte-clés. C'est la première étape. Donc la boîte s'appelle, le nom de l'appareil, c'est l'Ethyloki. Donc Ethylo comme éthylotest et Ki comme une clé. Et la boîte, c'est Ethylo Wheel. Comme le volant.
Okay.
Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est what the fuck, mais en même temps, je trouve que ça a une réelle utilité.
Et si t'es trop bourré pour attraper correctement ton Ethyloki, est-ce qu'il le détecte ou qu'il faut pas prendre
le
volant?
Et si t'es daltonien aussi, c'est compliqué. Ah, voilà.
Daltonien et bourré, ça fait beaucoup.
Et je vous rappelle que ce week-end, c'est la fête de la musique. Hein, voilà. Donc, à mon avis, c'est un objet.
Il faut boire avec modération.
Pas mal de popularité et effectivement, buvons avec modération. Sauf de l'eau, parce qu'en ce moment, là, il faut y aller quand même. Hein, il fait très chaud. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Mélisa, à Pierre et à Anthony pour ce De Quoi Je Mêle. Donc, depuis Vivatech, c'était un vrai plaisir que d'être avec vous sur le plateau de BFM Business. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et mon petit doigt me dit que Mélinda, Pierre et Anthony ont encore quelques petites innovations what the fuck à vous raconter. Et ça, c'est dédié en fait exclusivement au podcast audio. Donc, si vous êtes avec nous en audio, restez là, on vous offre quelques minutes supplémentaires. En tous les cas, merci de nous suivre et à la semaine prochaine. Salut à tous.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co.